Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Bienvenue dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, émission spéciale à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. On poursuit la discussion avec vous qui nous appelez, avec nos invités Mathias Soumpé, Joël Ataï-Guédégbé, Luc Niakadja. Vous êtes nombreux à nous écrire sur WhatsApp. Simon, par exemple, qui nous dit pour les 60 prochaines années, les chantiers prioritaires sont l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau, l'éducation, les routes, l'agriculture, la lutte contre la corruption, ça fait beaucoup. Corneille, à Porto Novo, les défis à relever, emploi, lutte contre la corruption, régionalisme, liberté de la presse et puis aussi, nous dit-il, accepter l'opposition, accepter l'alternance. Mathias Soumpé, on disait avant la pause à quel point le Bénin avait inspiré les voisins dans les années 90 avec sa conférence nationale souveraine. 60 ans plus tard, comment se porte la démocratie ?
Je dirais 30 ans plus tard, depuis 90, je pense que comparé au début de ce processus, on connaît quelques reculs aujourd'hui. Je veux dire du point de vue démocratique et du point de vue, n'est-ce pas, des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens. Mais de mon point de vue, je pense que la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille dans tous les pays. La démocratie a un chemin difficile où on rencontre, n'est-ce pas, des situations, on trébuche. L'essentiel est que le peuple s'assure qu'on se relève et que la démocratie se consolide finalement au fil du temps.
Vous parlez d'un recul. À quoi pensez-vous, malgré tout ?
Par exemple, lorsque vous regardez la situation au Bénin aujourd'hui, vous avez vu qu'on a retiré le droit de grève à des secteurs, n'est-ce pas, de l'administration publique. Vous regardez qu'on a restreint l'accès à l'espace politique. Pour devenir parti politique et se maintenir parti politique, c'est extrêmement difficile au Bénin aujourd'hui. L'une des conséquences de cela, c'est par exemple qu'on a un Parlement aujourd'hui formé simplement rien que des députés proches du chef de l'État. C'est qu'on a fini des élections locales où vous avez pratiquement toutes les mairies qui sont contrôlées. Je dis pratiquement parce qu'il y a sur 70, vous avez au moins... Sur 77, vous avez au moins 70 qui sont contrôlés par les partis proches du chef de l'État. Et donc, je pense que ces éléments ne sont pas de nature à favoriser la consolidation de la démocratie, à favoriser, n'est-ce pas, le respect de l'État de droit.
Alors, vous faisiez effectivement allusion à la loi sur la charte des partis politiques qui a été adoptée en 2018. Il y avait plus de 200 partis avant cette réforme. Il y en a, je crois, une douzaine autorisées actuellement. Joël Ataï-Guédégbé, quel est votre constat à vous sur l'évolution de la démocratie au Bénin, 60 ans après l'indépendance ?
Je dirais que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, qu'il y a eu des soubresauts. Je partage l'analyse globale de Mathias Soumpé. Et je dis également que la classe politique ne s'est pas autrement préparée à gérer cet héritage ou bien cette mission. D'autant que dans les années 60, nous n'avons pas moins connu des travers dans la mise en œuvre des principes démocratiques. J'ai peur que l'histoire bégaye et que par la corruption des lois et principes, on en arrive à des monstruosités. Il est facile de se fabriquer des majorités juste par l'artifice des lois qu'on vote à la petite semaine et dont on ne fait pas un large débat. Et c'est de ça que le Bénin doit se méfier. Et nous avons tous les instruments d'une démocratie institutionnelle, mais nous ne prenons pas assez garde à la collusion des pouvoirs, alors que la démocratie suppose, à tout le moins, séparation, sinon distinction des pouvoirs, et quoique leur coopération ne soit pas hérétique. Mais ce à quoi on assiste est plutôt de l'ordre de la concentration au plan politique, et comme au plan économique.
Oui, on va parler dans un instant de l'économie, mais c'est vrai que il y a eu cet épisode, je crois qu'il a quand même marqué les consciences des violences inédites pendant les législatives l'an dernier. Ça a marqué un tournant, ça a été un choc pour le pays.
Oui, il faut le dire. Je crois que le pays ne s'en est pas encore remis et que pendant longtemps encore, il faudra questionner les uns et les autres. Il faudra qu'on fasse cet effort d'approfondissement pour savoir si on avait besoin d'en arriver là, de part et d'autre. pour exprimer nos différences.
Luc Nyakadja, on parlait d'indépendance rapidement, hein, d'indépendance monétaire avant la pause. Ça passe évidemment par le développement économique. Or, en 60 ans, la population du Bénin a été multipliée par 4. On est passé en gros de 3 à près de 12 millions d'habitants. Est-ce que vous diriez que le développement a suivi ?
Globalement, le développement n'a pas suivi. Comme je disais tantôt, la démocratie et le libéralisme économique n'ont pas porté les fruits escomptés. Mais il y avait aussi une nécessité de rationaliser le fonctionnement de la politique démocratique dans notre pays. Et cette nécessité de rationalisation a accouché d'une sorte de rationnement dont il faut que nous sortions. Ça a aussi accouché d'une crispation politique qu'il est nécessaire de résorber. Mais c'est vrai que, comme disait Mathias Rumpet, la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. La nécessité de faire en sorte qu'on n'ait pas 300 partis politiques, mais qu'on ait un fonctionnement qui fasse vraiment que on n'est pas simplement des élections qui marchent, mais qu'on ait aussi une économie qui fonctionne, qu'on ait aussi de la croissance qui soit partagée, qui soit inclusive, et que le jeu des partis politiques ne génère pas davantage de corruption, davantage de copinage. Ça, c'était une nécessité. Et maintenant, il faudra donc résorber la crispation. Ça devient aussi une exigence de notre progrès, j'espère, dans les mois et prochaines années.
Alors, on va donner la parole à Emmanuel, qui est en ligne de Cotonou. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour Nathalie.
Alors vous vouliez évoquer, vous, votre sentiment depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, 2016, vous dites, les Béninois, puisqu'on parlait à l'instant de développement, les Béninois savent à quoi servent leurs impôts. Expliquez-nous.
Évidemment, désormais, les Béninois peuvent avoir cette fierté de voir leur contribution, leur participation à la vie publique, à la constitution des finances publiques, se traduit par des faits réels. Donc, comme je vous le dis là, celui qui est à Cotonou, il y a 5 ans, et qui était sorti et est revenu aujourd'hui, va même demander son adresse avant de se rendre chez lui. Il doit être accompagné avant de se rendre chez lui.
Il ne reconnaît Cotonou, pas sa ville, c'est ce que vous nous dites.
Il ne reconnaît plus sa ville. Cotonou a été complètement transformé.
Et vous dites donc que le bilan, finalement, de ces grands travaux d'infrastructure est positif 4 ans après ?
Oui, évidemment.
Qu'est-ce que ça a changé à votre quotidien, à vous ?
Bon, moi, personnellement, je peux vous dire pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours payé régulièrement mes impôts, tout ce qui concerne impôts, taxes, tout, j'ai toujours payé. Mais de façon concrète, on ne voit rien sous les autres régimes passés. On ne voit pratiquement rien que des scandales. Et avec l'avènement du régime de la rupture, sincèrement, on est fiers aujourd'hui quand on s'en va pour acheter quelque chose sur laquelle on sait qu'on paye des taxes. C'est fièrement qu'on le paye, quel que soit le prix.
Mmh. Le développement des infrastructures, donc. Et sur les autres chantiers, c'est vrai qu'on lisait dans les réactions de nos auditeurs sur la page Facebook que l'éducation n'était pas à la hauteur. Je crois d'ailleurs qu'on a en ligne Serge qui est à Calavi. Serge, vous êtes avec nous ?
Oui, exactement.
Alors vous dites effectivement que sur le terrain de l'éducation, eh bien le pays n'est pas à la hauteur. Il y a eu des changements, mais les mêmes problèmes demeurent. Racontez-nous.
Bon, alors, je vous remercie, Nathalie. Certes, le système éducatif béninois en 60 ans d'indépendance a eu des progrès. On peut les énumérer rapidement. Hein. L'école a été rendue accessible à tous. Des écoles ont été créées dans des villages ou dans des arrondissements. L'enseignement est gratuit au cours maternel et au cours primaire. Des cantines scolaires ont été mises en place et sont en train d'être suivies. La scolarisation des filles a été promue. Alors, mais ce qui reste à faire est tellement énorme que lorsqu'on jette un coup d'œil sur ces réussites, on a le sentiment que rien n'est encore fait. Mmh. Alors, j'aborde rapidement les défis à relever par ce système éducatif en l'état actuel.
Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes professeur de lettres et de français, donc vous êtes effectivement aux premières loges pour témoigner de ça.
Exactement, Nathalie.
Alors,
alors commençons par observer que à l'école aujourd'hui, l'histoire politique du Bénin depuis l'indépendance reste très peu enseignée. Les programmes d'études ne prévoient pas, ne taillent pas une belle part à l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin. Je vais raconter une petite histoire qui va vous éclairer là-dessus. J'interviens dans la commune de Kalalé en tant qu'enseignant. Kalalé, c'est une commune frontalière à Segmana. Et Segmana est connue dans l'histoire du Bénin comme étant un camp de concentration, si on peut le dire ainsi, pendant la période de la Révolution. Alors, il m'est arrivé d'interroger mes élèves sur la fonction référentielle de Segmana. Mais il y en a qui sont de cette commune-là et qui ignorent totalement le côté, l'aspect historique, le rôle que Segmana a joué pendant la Révolution au Bénin. Mmh. Vous voyez, c'est assez triste. Il faut que la mémoire soit préservée pour que nos apprenants d'aujourd'hui sachent que demain, il faut éviter à tout prix ces genres d'épisodes sombres que l'histoire que le Bénin a connu dans son histoire.
Joël Ataï Bédégbé, membre de l'ONG Nouvelle Éthique, on entend effectivement ce que nous dit Emmanuel à la fois sur les infrastructures, ce que nous dit Serge sur l'éducation. Où doivent se porter aujourd'hui les efforts pour le développement du Bénin?
Alors, plus que jamais, ces efforts doivent tendre à libérer les initiatives et à promouvoir le mérite, et parce que c'est autant de valeurs qui ont été faussées, qui n'ont pas été suffisamment observées dans la vie quotidienne de notre pays. Et plus que jamais, il faut avoir la mémoire de ces moments douloureux et pour que plus jamais cela n'advienne. Il n'empêche, il y a des choix qui vont s'imposer, il y a des renoncements ou alors il y a davantage de rationalisation à envisager dans la conduite de notre vie publique. Je parle des choix, par exemple. Le Bénin tarde à se situer entre un pays de service, parce que étant un corridor vers le pays du Sahel, et donc aidant au transit des marchandises de part et d'autre, le Bénin peine à se situer comme pays de service, y compris vers le Nigeria, ou alors pays producteur. Parce que le Bénin n'a même pas de ressources à exploiter. Donc, il faut faire clairement de tels choix, notamment.
Il a quand même son coton. Il a son coton et c'est ce qu'effectivement il valorise en ce moment. Il est même devenu, il y a quelques mois, le premier producteur, hein, devançant le Burkina Faso. Mais ça ne suffit pas pour vous, clairement.
Ça ne suffit pas et on ne peut pas faire que du coton. Il faut faire mieux de coton, il faut faire mieux l'agriculture. Je crois que les différents gouvernements s'y attellent. Et l'actuel gouvernement a le mérite de ressusciter ou de réhabiliter d'immenses périmètres hydro-agricoles. Mm-hmm. Donc la maîtrise de l'eau en agriculture, tout comme l'accessibilité à l'eau pour les populations en termes d'hygiène, en termes de qualité de vie, voilà autant de priorités, mais qu'il va falloir ordonner, sur lesquelles un gouvernement a besoin d'arbitrer, mmh. et sur lesquelles les partis ont besoin de se prononcer pour dire exactement quelles sont leurs options.
Il faut le rappeler, hein, depuis 2016, une croissance moyenne de 5,5%. La croissance, elle est là, l'activité, elle est là, mais la pauvreté ne recule pas.
Elle demeure. Il faut pouvoir sortir de la trappe de la pauvreté pour amorcer le cycle vertueux de la croissance durable. Le Bénin, épisodiquement, vient de sortir des 25 pays les moins avancés du monde, mm-hmm. Vient d'être classé pays à revenus intermédiaires, quoique faible. Et donc, il s'agit de pouvoir se maintenir. Il s'agit de pouvoir aller au-delà et surtout d'assurer la redistribution équitable selon le mérite de chacun.
Mathias Oumpé, on a effectivement un pays qui a des atouts, qui, on l'entend dans les témoignages de nos auditeurs, progresse ces dernières années, construit, bouge, et en même temps, une croissance qui ne profite pas à tout le monde.
Donc, de mon point de vue, c'est justement lorsque vous êtes capable d'allier, n'est-ce pas, le développement démocratique avec le développement économique que vous pouvez garantir aussi bien à améliorer, n'est-ce pas, la qualité du développement économique et garantir la redistribution. Lorsque vous ne faites que le développement économique, vous courez le risque que tout ceci soit capté par un petit groupe lorsque ce n'est pas accompagné par un développement des mécanismes qui font que la société exige de ceux qui gouvernent, qu'ils rendent compte, exigent de ceux qui gouvernent, qu'ils tiennent compte de leurs préoccupations, etc. Et donc, de mon point de vue, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits du point de vue économique, du point de vue de l'agriculture et tout, mais je ne crois pas que ces efforts ne doivent pas se faire seulement au détriment de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Je crois que c'est les deux ensemble qui permettent d'obtenir, n'est-ce pas, l'évolution d'un pays et d'obtenir la redistribution qui garantit l'épanouissement de tous. Mmh. Et ça, je pense que des exemples existent qui le montrent qu'on peut le faire.
Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer sur la question des droits, des libertés publiques, le statut de la presse, hein, avec pour les journalistes une forme de recul. Hein. Le pays est passé au 113e rang au classement de Reporters sans frontières. Il y a eu des procès, effectivement, dont celui d'Ignace Sossou de Web TV Info. Les médias, Joël Ataï Guédégbé, restent aujourd'hui sous la tutelle du pouvoir ?
Sous la tutelle des pouvoirs, je dirais, c'est-à-dire des sphères d'influence politique et économique. La presse est tragiquement dépendante pour son financement des chapelles politiques ou des officines économiques. Et maintenant, se greffe là-dessus une législation de plus en plus répressive qui fait que malgré l'existence d'un code qui globalise l'ensemble des lois sur la communication, l'information et par extension sur le numérique, on assiste à une espèce de bâillonnement, mais qui interpelle en partie la responsabilité des journalistes eux-mêmes, leur professionnalisation, l'évolution des médias en entreprise de presse viable. Et de ce point de vue, l'État a le devoir de les accompagner plus significativement. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, dont la mission première au terme de la Constitution est de protéger la liberté de presse, et devrait réviser sa manière de fonctionner, devrait sans plus tarder travailler à la révision du code sur le numérique qui est désormais une espèce de chape de plomb sur la liberté d'expression en général au Bénin et pour les médias qui ont besoin de se moderniser et par extension.
Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de prendre Albert, qui nous appelait de Cotonou, qui voulait évoquer ce symbole, pour lui, le début de la restitution des œuvres d'art, alors que l'on célèbre effectivement les 60 ans de l'indépendance du Bénin. Il nous dit que c'est un pas de plus vers l'affirmation de l'indépendance. Boris, à Cotonou, évoque également cette question de l'identité culturelle du Bénin. Il dit on a surfé pendant 60 ans sur la vague coloniale, jusque dans les années 90. On n'a jamais eu une identité béninoise typique. Mathias Soumpé, en un mot de conclusion, c'est aussi une affaire de symbole, l'indépendance et l'indépendance réelle, 6 décennies plus tard.
Absolument, je pense que non. Bon, je pense qu'on a rencontré différents types de difficultés. L'indépendance était nécessaire parce qu'il fallait que les pays africains, et notamment le Bénin, prennent leurs responsabilités et assument, n'est-ce pas, la gestion d'eux-mêmes et de leurs ressources et de leur population, etc. Et donc, de ce point de vue, pour moi, si c'était à refaire, il faut le faire, on doit être indépendant. Mais vous savez que l'indépendance, une fois que formellement cela vous est donné, vous êtes dans un environnement qui détermine aussi les moyens dont vous disposez, les capacités que vous avez de gérer l'indépendance. Et donc, je peux dire que l'environnement international dans lequel nous nous sommes retrouvés depuis la période des indépendances, les moyens dont nous disposons et les défis et les obstacles internes à nos populations ont fait que c'était difficile pour nous de nous gérer vraiment de façon indépendante. Donc, on dépendait toujours de ressources, d'aides venant d'ailleurs, de prêts venant d'ailleurs. Donc, on dépendait un peu aussi politiquement de puissances étrangères, etc. Et donc, je pense que nous sommes sur le chemin et chaque jour qui passe, je pense que les pays africains affirment et devraient continuer à affirmer leur indépendance.
Merci Mathias Soumpé, merci à nos invités Joël Ataï Guédégbé, Luc Niakadja. Les 60 ans de l'indépendance du Bénin, on y reviendra demain tout au long de la matinale et dans une page spéciale entre 7h30 et 8h30 heure de Cotonou. Lundi, ce sera au tour du Niger de célébrer le soixantenaire de son indépendance et nous y consacrerons une émission.